PMERadio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants des petites et moyennes entreprises, animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec Jeffip et Inextinso.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et puis comme vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X PME Radio-du-bas TV. À mes côtés pour co-animer l'émission du jour, Guillaume Dozinel, dirigeant associé de Jeffip. Bonjour Guillaume.
Bonjour Pauline.
Ainsi que Johan Melloul, directeur associé d'Inextinso Finance. Bonjour Johan.
Bonjour Pauline.
Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Didier Botan, président fondateur d'Atelier COS. Bonjour Didier.
Bonjour.
Didier, vous êtes né à Toulon et après 2 années de médecine, vous vous tournez finalement vers des études d'architecture. Vous suivez notamment les enseignements des Beaux-Arts à Paris, Quai Malaquais. Et en 1982, alors que vous êtes en 3e année d'architecture, vous créez votre premier cabinet et il se passe une dizaine d'années avant l'obtention de votre diplôme. C'est quand même plutôt atypique comme début de carrière, non ?
Oui, oui. J'avais mon mentor de l'époque qui était un ancien architecte qui était devenu pilote automobile et qui m'emmenait faire les roadbooks sur le rallye de Tunisie. Et donc, on s'entendait très bien. Un jour, il me dit, il y a 2 boutiques Louis Ferraud à faire au Palais des Congrès. Moi, j'ai pas le temps, démerde-toi. Et j'avais un binôme à l'école puisqu'on travaillait beaucoup en binôme. Et j'avais même pas idée de ce qu'était un carreau de plâtre à l'époque. Mais on y est arrivé. Et puis, derrière, on a gagné un concours. Et puis, voilà, c'était lancé. Et donc, j'arrivais pas à passer mon diplôme. J'ai passé 10 ans, comme vous, peut-être pas 10 ans, mais 7 ou 8 ans à travailler, toujours associé à un architecte des PLG parce que je pouvais pas déposer de permis de construire. Et puis, je ne sais plus en quelle année, Gilbert Faux, qui était à l'époque président de l'Ordre des architectes, me propose de faire un concours avec lui. Et je lui dis, j'accepte, à condition que je puisse le proposer en diplôme. Et il a dit, avec grand plaisir. Et c'est comme ça que j'ai pu enfin avoir mon diplôme.
Ok, alors pour continuer la belle histoire, en 1994, vous répondez à une demande du RITS à Paris qui souhaite qu'un architecte suive les nouveaux travaux. C'est comme ça que commence l'aventure du RITS. Vous nous racontez un petit peu ?
Oui, en fait, en 94, c'était la première crise qu'on rencontrait. On se retrouve avec mon associé de l'époque à avoir terminé toutes nos opérations. Toutes celles qui devaient démarrer étaient en stand-by et on n'avait absolument rien à faire. Et mon associé de l'époque, qui avait participé à la première rénovation du RITS, est appelé par le RITS pour s'occuper de travaux techniques. Et lui, il était plutôt le technicien et moi, le créa de l'équipe. Et il se fait virer le premier jour. Donc, réunion de crise le soir. Et je lui dis, écoute, je vais prendre la place. De toute façon, on n'avait rien d'autre à faire. Et ils m'ont proposé, ils m'ont dit, c'était un boulot 2 jours par semaine, mais puisque vous n'y connaissez rien, vous allez venir pendant 1 mois tous les jours. Et j'y suis resté 7 ans.
Et vous aviez même un bureau, je crois, au RITS.
Oui, mon bureau était à l'hôtel.
C'est plutôt pas mal.
Je poursuis. C'est les bungalows de chantier de la précédente rénovation.
Il y a pire, du coup.
J'avais vu sur le jardin, c'était magnifique.
Et nous voilà en 2001, où vous créez l'atelier COS. Atelier COS. Et tout de suite, vous avez des beaux projets entre les mains, comme le premier cheval blanc à Courchevel. Et c'est le début d'une longue série de projets de luxe, le Four Seasons, Georges V, le Palais de Biarritz, pour ne citer que. Est-ce qu'il y a parmi ces projets un projet qui vous touche particulièrement et dont vous êtes particulièrement fier ?
Disons que le RITS, c'est l'origine de tout ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir appris mon métier au RITS, puisque j'avais la chance d'avoir mon bureau sur place. Je déjeunais avec le directeur technique, avec la réception, avec la réservation. Donc, j'ai compris le fonctionnement de ces grands paquebots. Il se trouve que j'avais mis un point d'honneur à connaître le bâtiment par cœur, et donc j'ai passé beaucoup de temps dans les archives. D'ailleurs, à l'occasion de ces recherches, j'ai retrouvé les plans originaux de Méouès, dessinés à la main. 3 grands carnets en cuir qui détonnaient un peu au milieu de toutes ces archives, que j'ai gardées dans mon bureau pendant des années. Et c'était très amusant. C'est à la fin de la rénovation de l'hôtel. Le président m'appelle un jour en me disant, venez voir, vous voyez ces trois carnets. Bah, j'ai dit, bah, je sais, je les ai gardés pendant au moins 5 ans dans mon bureau. Le Louvre ne veut pas les prendre pour le moment pour les restaurer parce qu'ils ne sont pas assurés pour.
Un petit mot quand même, quelques chiffres plutôt sur Atelier Cosse. Atelier Cosse, c'est près de 70 collaborateurs répartis sur 3 entités, architecture et patrimoine, design et conseil. Plus récemment, l'édition, on va y revenir. Tout cumulé, ça fait un peu plus de 10 millions de chiffres d'affaires. Donc, c'est des jolis chiffres. Voilà pour la fiche technique. Guillaume, à vous de questionner notre invité du jour.
Quelles sont les spécificités d'un projet de rénovation d'un hôtel parmi les plus emblématiques du monde? Et plus généralement, quelles sont les spécificités du luxe dans vos métiers?
L'avantage que j'avais au Ritz, c'est d'avoir passé toutes ces années, de comprendre tout ce qui marchait mal. On avait monté une cellule très tôt, quand j'étais là-bas, qui s'appelait « The Room of the Future ». Et qui était une cellule à la fois où on regardait tout ce qui se faisait dans le monde, c'est-à-dire qu'il y avait des gens du Ritz qui partaient en clients mystères dans toutes les grandes ouvertures, et on faisait un peu le tri de tout ce qu'il y avait d'intéressant dans ces nouveaux hôtels. Je rencontrais il y avait un groupe d'ingénieurs américains qui était assez pointu, et donc on se faisait des réunions tous les 6 mois pour regarder un peu toutes les technologies. Parce que la technologie, c'est très bien, sauf que dans un hôtel, vous y passez 1 ou 2 nuits, donc il faut à un moment la dégrader pour qu'elle soit accessible aux clients. Donc il fallait chercher tous ces trucs un peu pointus, mais les rendre facilement utilisables. Donc, j'ai été au cœur de cette machine. Et en 2005, ça faisait des années qu'on parlait de rénover l'hôtel, soit par petits bouts, soit... on me demande, pendant l'été, de réunir un peu toutes ces études et d'essayer de pas de faire un projet global, puisque c'était impossible. Il y avait certains projets qui s'enchevêtraient, etc. Mais on est arrivé à faire un dossier qui a permis de sortir un budget et un planning. Mmh. Et donc, 2005, rendez-vous avec le board et la famille qui acceptent le projet. Et là, on s'est mis en œuvre pour faire ce projet. C'est vrai qu'à l'époque, je connaissais chaque mètre carré de l'hôtel. Donc, c'était un exercice qui me semblait facile. Enfin, j'étais pas non plus tout seul. On était une belle équipe pour conduire un tel projet. Qu'est-ce que le luxe? Finalement, le luxe, c'est à la fin, c'est l'utilisation de tous ces artisans qui vont mettre en œuvre ce que vous avez dessiné. Et ça, c'est d'un confort quand vous voyez les qualités de toutes ces petites entreprises, que ce soit de la ferronnerie, du travail sur cuir, de la dorure, de la peinture décorative. C'est passionnant de travailler avec des gens qui ont un tel niveau de qualité.
Vous dites que l'un des sujets importants pour vous est de rendre vertueux un secteur dont ce n'était pas l'ADN. Vous pourriez développer votre pensée?
Ben oui, le luxe, au départ, on a l'impression que c'est un peu le monde de tous les excès. Or, nous, en tant qu'architectes, on a cette connaissance technique. Si je prends encore l'exemple du Ritz, même si ce n'est pas le seul projet qu'on ait fait, je les ai convaincus d'isoler la totalité du bâtiment. Au début, pour la famille, ça paraissait un non-sens de perdre 10 cm sur tous les murs, sur toute la superficie. Mais on a fait des calculs sur les économies qu'on pouvait engendrer, puisque à l'époque, on n'était même pas encore sous les RT, machin chose. Et en fait, j'ai converti ces mètres carrés, puisque l'hôtel ne pouvait pas être plus grand à la fin de la rénovation qu'avant, en création de nouveaux espaces. Donc, il y avait une chose très amusante sur les économies d'eau avec le directeur technique. On se disait, les chasses d'eau sont beaucoup trop importantes et il n'y avait pas à l'époque les 2 vitesses. Donc, on mettait un parpaing dans chacune des chasses d'eau pour économiser son volume en eau. Donc, on a travaillé sur les premiers mousseurs, on a travaillé... ce qui est assez passionnant, c'est que... On a un bel outil qui vous demande d'aller au fond et vous pouvez vous servir du temps qu'il vous donne pour aller chercher d'autres choses.
Johan, est-ce que vous aussi, vous avez des questions pour Didier Botton?
Oui, tout à fait. On a vu que vous étiez reconnu sur l'hôtellerie de luxe en termes d'activité, qui est une activité qui est en croissance et qui réclame des investissements lourds et un effort environnemental plus marqué, vous l'avez dit. Est-ce que ça influe sur le profil de vos propres équipes en termes d'approche et de gestion de projet?
Alors, sur le profil, oui, on forme les gens, forcément. On forme au nouveau logiciel, mais aussi à l'environnement. C'est assez amusant, parce que ça crée des rencontres et ça fait naître des choses parfois inattendues. Mais oui, on a des équipes. D'abord, on prend pas mal de jeunes qu'on essaie de former, soit prennent leur envol après, soit montent à notre niveau pour essayer de développer le cabinet. Parce que, pas se le cacher, moi, je suis plus près de la fin que du début. Et donc, c'est intéressant de voir aujourd'hui la manière dont des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi envisagent l'avenir de ce cabinet. Voilà, que j'ai appelé Atelier COS pour ne pas lui donner mon nom, pour qu'il puisse perdurer un jour. Et c'est intéressant.
Est-ce pertinent pour vous de vous projeter sur une politique de croissance externe, notamment à l'international, puisque le marché de l'hôtellerie est un marché par définition international?
C'est une bonne question. Aujourd'hui, on réfléchit à externaliser certaines tâches qui sont un peu répétitives. Il y a une partie de notre boulot où on vient chercher notre expertise, et ça, on ne pourra jamais l'externaliser. Par contre, dans le travail d'architecte, il y a des tâches répétitives et lourdes, où on essaie de réfléchir. Mon épouse et associée est argentine, c'est de monter une structure là-bas pour le développer. On devait faire un projet à Cuba où on réfléchissait avec les écoles de Cuba pour justement créer un partenariat pour essayer de partager, déjà d'avoir une vision autre de leur part, et ensuite pour essayer de leur apporter notre expertise autant qu'on puisse la donner.
Et enfin, vous avez lancé plus récemment des activités complémentaires, COS Conseil et COS Édition. En quoi ces activités viennent compléter et nourrir votre activité principale?
Ça a commencé par COS Design. En fait, COS Design, quand on a fait le Ritz, moi j'étais l'architecte, donc théoriquement la déco, je m'en occupais que très peu. Or, ils sont allés chercher un Français qui vivait à New York, donc qui avait les codes américains et qui était très proche du propriétaire, mais n'avait pas tout à fait les codes du Ritz. Je me rappelle d'un jour, Thierry avançait, je lui dis: mais Thierry, t'as pas compris, le Ritz, c'est pas masculin, c'est féminin. Et à partir de là, d'un seul coup, sa gamme chromatique, tout a changé, et il est rentré avec. Donc, la famille m'avait demandé de superviser son travail. De toute façon, il faisait un concept et il voulait que ce soit moi qui le développe. Et donc, j'ai réuni une équipe sur un tel chantier aussi long. J'avais une douzaine de collaborateurs qui regardaient tous les calepins, bref. Et à la fin du Ritz, j'allais pas me séparer de ces 12 personnes avec qui on avait vécu cette aventure. Et donc, j'ai proposé au chef d'équipe, Hervé Jaillet, qui venait de chez Pierre-Yves Rochon, en lui disant: bah, on monte un atelier COS Design, ils sont au top, et puis on verra bien ce que ça donne. Et de COS Design, on est arrivé à faire édition, puisqu'on fait beaucoup aussi de choses qu'on ne peut pas montrer, qui sont des résidences privées, où on dessine beaucoup de mobilier, de lampes, de... Et donc, on essaie d'éditer des pièces qu'on a dessinées pour certains clients. Et enfin, le conseil, ça venait d'un de mes meilleurs amis qui était spécialiste en programmation hôtelière. Et ça avait du sens avec mon approche un peu plus architecturale qu'ensemble on puisse créer une fonction conseil, mais qui est une petite part de tout ça.
Donc Atelier COS, plein d'aspects, plein d'entités différentes, une actualité à suivre. En tout cas, merci beaucoup Didier Botton d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous Guillaume et Johan. C'est la fin de ce numéro de PME Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. Et puis on se retrouve jeudi prochain à 14h pour découvrir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de PME Radio. Production B2B Radio.tv en partenariat. partenariat avec GFIP et Inextinso.